Profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Comment l'apprendre? Comment le transmettre? Comment se fabriquent les idées? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui s'intéresse à la différence des sexes. De quelle différence s'agit-il? Comment est-elle pensée? Et comment l'absence de réflexion à ce sujet a-t-elle contribué à forger une histoire de la philosophie que l'on pourrait lire autrement? Homme, femme, est-ce important quand c'est la pensée qui est censée l'emporter? Mon invité aujourd'hui s'appelle Geneviève Fraisse et la voix qui lui parle et qui l'enchante, c'est celle de Nina Simone. He's got the whole world in his hands, he's got the whole world in his hands, he's got the whole world in his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the fish of the sea in his hands. He's got the birds of the air in his hands. He's got the fish of the sea in his hands. He's got the whole world in his hands. Quel début de journée. Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Merci d'être au micro des chemins de la philosophie ce matin.
Merci à vous.
He's got the whole world in his hands. C'est votre chanson préférée de Nina Simone?
C'est pas la seule, mais disons, là pour aujourd'hui, je trouvais que ça, c'était proche.
Proche de quoi?
Proche, je sais pas, je pense qu'elle m'accompagne depuis, on peut pas dire toujours, mais comme elle parle du monde entier, on se sent dans le monde entier avec elle. Donc, et dans ses mains, et tout ce qu'on met dans ses mains, et bon, voilà.
Savez-vous que les philosophes qui travaillent sur le féminisme ou sur les femmes qui sont venus à ce micro, Manon Garcia, Camille Foy-de-Vaumetry, Fabienne Brugère, qui était là il y a peu de temps, ont toutes proposé Nina Simone?
Ah non, je ne savais pas du tout. C'est pas vrai.
Eh si. Alors, je t'en laisse tirer les conclusions que vous voulez, mais c'est intéressant, non?
C'est pas mal, oui.
Bon, je vous laisse l'émission pour y réfléchir et vous me direz à la fin ce que vous en pensez.
Mais j'ai hésité avec Janis Joplin.
On l'a pas encore entendu celle-là.
Qui m'accompagne aussi depuis...
Un autre genre.
Depuis Oh Lord, qui m'accompagne depuis...
Won't you give me a Mercedes-Benz?
Benz, voilà. Mais c'était le Mercedes-Benz qui m'a arrêté. Sinon j'aurais pu prendre Janis Joplin, oui.
On va passer 50 minutes ensemble, en tout cas Geneviève Fraisse, 50 minutes au cours desquelles nous allons remonter à l'origine de votre rencontre avec la philosophie, découvrir vos sources d'inspiration philosophique et extra-philosophique, pénétrer dans votre atelier de fabricante de concepts et réfléchir avec vous au rôle politique de la philosophie. Mais avant cela, s'il fallait énoncer un terme, un concept autour duquel s'articule votre travail, lequel serait-il? On a hésité dans l'équipe, on se demandait est-ce que c'est celui de femme, c'est celui de sexe, de genre ou d'égalité, ou encore un cinquième?
Alors, je pense que c'est sans doute l'égalité, parce que c'est un peu ma lanterne magique, ce que j'appelle aussi un opérateur. L'égalité, j'appelle ça un opérateur de pensée. C'est ce à partir de quoi et avec quoi je pense, la question sexe, genre, femme, etc. J'ai entendu que vous me présentiez avec le terme, l'expression différence des sexes, qui remonte à Hegel, avec Geschlecht Differenz, j'aime toujours le rappeler, hein, que c'est pas un contenu, c'est une catégorie. C'est là où on est en philosophie. C'est-à-dire qu'en général, on appelle ça un contenu. Est-ce qu'il y a ou non de la différence. C'est pas du tout ça le problème. Mmh. On s'en fiche. Ce problème-là ne m'a jamais intéressée.
De savoir s'il y avait une différence entre l'homme et la femme.
S'il fallait. La question, c'est de savoir comment ça fonctionne. Jusqu'à dire que, c'est quand même une de mes phrases préférées, c'est que l'histoire est sexuée ou que les sexes font l'histoire. Alors, il est vrai que s'il faut parler de mots, je le dirais à l'envers, quand on a tous les débats qu'on a eu sur le genre et qui pour moi ont commencé au début des années 80 déjà, hein, c'est vrai que je me suis posée comme celle qui disait qu'on ne pouvait pas jeter un mot à la poubelle. Il y en a beaucoup qui ont jeté le mot sexe à la poubelle, qui veulent plus l'employer du tout dans leur pensée, dans leur recherche. Je crois que c'est une erreur. Non pas parce qu'on opposerait sexe à genre comme biologique, social ou nature, culture, etc., mais parce qu'on jette jamais un mot à la poubelle. Et celui-là, il a fallu le faire disparaître comme s'il était mal placé. Donc on débat maintenant de genre et sexualité. Là, beaucoup de séminaires, beaucoup de thématiques sont là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'aucun de ces termes ne convient, puisque c'est ce que j'appelle une catégorie vide éventuellement.
Ouais. Et donc égalité.
Égalité, alors j'ajouterais, puisqu'on parle de vocabulaire. Non, non, c'est moi je suis pas du tout, on est dans l'épistémologie là, on n'est pas dans... Non, non, quand je dis égalité, opérateur égalité, c'est de l'épistémologie, c'est-à-dire avec quoi je vais penser. C'est pas ce que je veux penser, c'est avec quoi je vais penser.
Penser quoi?
Alors, justement, les termes sont en ce moment en mouvement, et j'ai l'habitude de dire, à propos de genre, que je ne jette pas non plus, mais j'ai quand même titré un livre à côté du genre, j'ai titré un autre livre « Les excès du genre », donc je manipule ce que j'appelle une promesse conceptuelle. C'est-à-dire que c'est encore une promesse, c'est pas encore installé. D'ailleurs, c'est sidérant de voir, et là je l'avais fait de façon assez polémique dans « Les excès du genre » en 2014, c'est que les êtres, les philosophes et autres, passent facilement de le genre, ce qui serait le concept, qui subsumerait les différences, à les genres, où on a soit le multiple et il y a des genres à l'infini, etc., soit le deux, le masculin, féminin, les hommes-femmes. Je dis, on a fait tout ça pour revenir au point de départ? Non, c'est pas possible. Donc là, on est quand même dans une confusion conceptuelle qui n'est pas que négative, qui est seulement le fait que c'est un processus en cours, que cette recherche de concept pour dire l'objet qui peut m'intéresser. C'est pour ça que j'ai basculé vers l'opérateur égalité, qui est un lecteur, qui est ce qui me permet de lire.
Quand je vous dis que c'était un combat, c'est parce que l'égalité entre l'homme et la femme est loin d'être une chose acquise.
Oui, mais c'est pas de ça dont je suis venue parler aujourd'hui.
Non, mais si vous vous servez de ce terme, ça veut dire que pour vous, vous le constatez ou que vous
non,
le souhaitez?
Ça veut dire que l'ère démocratique nous a permis de penser cette question. Sexe, genre, différence, appelez-le comme vous voulez. En général, je termine en disant, prenez le terme que vous voulez. Mmh. Se pense de façon nouvelle grâce au concept grâce à la démocratie. On pense différemment grâce à la démocratie. C'est ça que je veux dire avec égalité. C'est pas pour ça que je...
Égalité politique.
Politique, je sais pas ce que... C'est politique tout court, l'égalité. Si on parle des questions de consentement en ce moment, c'est bien des questions d'égalité. Je serais capable de vous dire ça.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie, Geneviève Fraisse?
Alors, elle est dans l'absence, c'est-à-dire que, comme je suis née dans un milieu intellectuel, la philosophie est là avant que je sache ce que je sais, mais je sais que c'est ça que je veux. Je suis jeune adolescente et je sais que c'est ça que je veux et que c'est ça que je ferai.
Et ça, c'est quoi?
Mais je sais pas ce que c'est encore.
D'accord.
Mais c'est ce qui manque, c'est simplement ce qui est désigné et à la fois qui manque dans cet univers intellectuel dans lequel, communautaire d'intellectuel dans lequel je suis née.
Et le premier livre de philosophie que vous ouvrez?
Oh, bah alors là, c'est classique, c'est, qu'est-ce que vous appelez la philosophie d'abord?
Bah, c'est à vous de le définir.
C'est la classe de philosophie qui va me dire ce que c'est que la philosophie. Donc, il y a encore des manuels, etc. C'est bien pour ça que je trouverai pas le mot sexe-genre dans les manuels, ça va me gêner. Mais un peu plus tard, c'est le professeur de philosophie, mon premier livre de philosophie. C'est mon professeur, qui est un être délicieux, et voilà. Et qui est plein de points de suspension. Et je crois que c'est ça qui m'a plu, par rapport sans doute aux pensées affirmatives et aux affirmations qui entouraient mes oreilles. J'aimais bien ces points de suspension.
Et c'est lui qui vous donne envie d'en faire votre métier?
Non, mais ça je l'ai su sans savoir ce que c'est que la philo, que je ferais ça.
Il vous a confirmé dans cette envie?
Bah, tout m'a confirmé. J'ai jamais changé d'avis. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Il y a une personne que vous rencontrez et qui vous accompagne dans ce désir de devenir philosophe. Cette personne, c'est Jacques Rancière.
Quand je pense à Geneviève Fraisse, bon, je revois d'abord cette jeune femme superbe et passionnée qui a débarqué dans mon cours une après-midi d'automne, il y a presque 50 ans, en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les femmes ». Mais travailler sur les femmes, pour elle, ça ne voulait pas dire analyser une condition, mais étudier le sujet d'une parole, d'une action collective, que résumait le mot de féminisme. Donc ça entrait immédiatement en résonance avec ma propre recherche sur les mots et les gestes de l'émancipation ouvrière. Et alors on peut dire qu'une même décision nous a rassemblés de ne plus voir dans les révoltes des réactions spontanées à la domination, mais des mouvements de la pensée et des corps, développant une rationalité propre, et donc une rationalité qu'il fallait aller rechercher dans les textes même où elle s'était argumentée. Je crois que c'est cette manière un peu singulière de la faire de la philosophie qui a animé notre aventure collective, c'est nommé Révolte logique, et qui se retrouve encore aujourd'hui dans le titre de son livre « Féminisme et philosophie ».
Jacques Rancière sur France Culture, les chemins de la philosophie à l'occasion de cette émission Profession philosophe en compagnie de Geneviève Fraisse. Jacques Rancière qui ne tarit pas d'éloge à votre sujet, qui parle d'aventure collective en ce qui concerne vos travaux respectifs. Vous souscrivez ?
Oui, c'est le mot que je retiens dans ce qu'il dit. Merci Jacques. C'est le mot immédiateté. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été deux fois admissible à l'agrégation. J'ai élevé le CAPES et j'ai décidé de pas tenter une troisième fois parce que, disons, j'avais un nom propre un peu gênant qui était le nom de mon père, professeur à la Sorbonne. Donc c'était les écrits étaient anonymes, les oraux ne l'étaient pas.
Vous voulez pas faire honte à votre père en prenant le risque de rater une troisième fois ?
Ça n'a rien à voir avec ça, c'est que ce nom était gênant, c'était un obstacle entre le jury et moi, puisque c'était leur collègue. Non, c'était pas le rapport à mon père, c'était le nom propre qui était gênant, le patronyme. Et donc ça servait à rien que je passe les oraux, puisqu'à ce moment-là, j'étais la fille de mon père, tandis que les écrits, j'étais anonyme, c'était ma seule possibilité. Non, c'était la vision de rester anonyme, c'est très important. Et puis j'étais trop pressée d'aller voir les archives du féminisme, il y avait une très grande urgence, j'avais repéré qu'il y avait cette bibliothèque avec Marguerite Durand, où j'ai lu donc le journal des révolutionnaires femmes de 1848. Et c'est à ce moment-là, juste le lendemain donc de ces euros ratés et de cette biadmissibilité, que j'ai décidé d'aller voir ce qu'étaient devenus les anciens althusseriens. Parce que il était urgent que je sorte de l'histoire de la philosophie, qui était celle des concours. Et donc j'ai été en voir quelques-uns, et cette immédiateté dont parle Jacques Rancière est exacte, c'est-à-dire je suis effectivement rentrée dans ce séminaire, on m'a envoyé un petit tour de table, on devait être une dizaine, et j'ai dit, je fais un truc qui vous intéressera pas, je suis en train de lire La Voix des Femmes de 1848, et immédiatement il m'a cité les noms des femmes qui étaient représentées dans ce journal, et je me suis dit, mais on parle la même langue. Donc voilà, c'est pour ça que je commande son mot immédiateté, c'est exact.
Qu'est-ce qui vous a transmis Jacques Rancière ?
Alors c'est pas de la transmission, c'est un soutien complet. C'est-à-dire ce que j'avais commencé dans une grande solitude, après en ayant quand même je devenais jeune prof de philo, j'allais donc enseigner la philo, mais en même temps je voulais faire de la recherche. Mais ça je le savais depuis mon adolescence, puisque j'avais juré avec une amie que jamais je serais professeur. Donc je voulais vraiment faire de la recherche et pas enseigner, c'est-à-dire pas transmettre. Et j'ai pas cherché à ce qu'on me transmette, j'ai cherché à rencontrer de l'interlocution. Et là c'est une interlocution qui existe encore aujourd'hui.
Et votre souci de travailler sur la question alors de la différence des sexes, du genre, on n'a pas mis au point le concept.
On peut employer le mot féminisme.
Accordons-nous sur féminisme.
Qui est en couverture du livre qui paraît.
Et simultané à votre envie de faire de la philosophie. Vous savez tout de suite que c'est la philosophie et le féminisme qui vous intéressent.
Non, je sais que c'est la philosophie, mais il se trouve que mon âge et mon parcours fait que le féminisme commence exactement pendant mes études de philosophie. Donc l'urgence va s'installer de me dépêcher de finir ses études pour pouvoir aller voir ce qui se passe de ce côté-là. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est pour ça que j'ai pas traîné, si je puis dire, et je suis partie à la Bibliothèque Nationale, à la Bibliothèque Marguerite Durand, à la Bibliothèque Nationale, où c'était tout le monde entier, comme dit Nina Simone, quoi.
Nous faisons la grève contre la situation qui est faite aux femmes dans cette société, dominée par les hommes, et cette société capitaliste aussi. Nous faisons la grève du travail domestique parce qu'il est réservé aux femmes, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu et qu'il est obligatoire. Et on fait grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler comme certaines femmes le font, 15, 16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler, bon, comme des serfs.
C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, il y en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur vie, de leur maison. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, on est bien réussis.
Et oui, c'est la grève, mais la grève des femmes, c'est une archive 9 juin 1974, on entend des femmes qui appartiennent au MLF. Vous avez chanté, vous avez fait la grève des femmes aussi, Geneviève Fraisse ?
Je n'avais peut-être pas besoin de la faire à ce moment-là, n'ayant pas, choisi une voie conventionnelle du point de vue de ma vie privée. Donc ça ne se posait pas en termes de, d'interpeller ma vie privée.
Ce n'est pas l'espace domestique qui vous oppressait à ce moment-là,
ça? Pas spécialement, non.
En 1974, donc vous étiez à leur côté ?
Ah bah oui, parce que c'est il y a une photo comme ça d'une de la manifestation de 75 qui est la première fois où l'ONU décide une année l'année des femmes et où on a je suis comme ça devant une dans une manifestation où on a si c'est l'année de la femme, est-ce que c'est aussi l'année du cheval, l'année du chien, enfin on était un peu comme ça quoi. Mais aujourd'hui quand on voit les chorégraphies dans les manifestations actuelles que font les femmes, ça a commencé au Chili mais ça continue maintenant dans le monde entier, là les d'autres femmes font une chorégraphie en ce moment. Donc là, il y a une sorte de chose ludique dans la pensée. Parce que ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est pour ça que je résistais à l'idée que c'était directement militant, c'est que moi, je consacre mon existence à montrer que ça pense. Que c'est un endroit où ça pense.
Quel endroit ?
Le féminisme. Parce qu'on pense que ça pense pas, que ça s'excite, que ça s'énerve, que ça crie avec ses haut-parleurs dans la rue, etc. Moi, ce qui m'a déterminé, c'est en ce sens que les révoltes logiques ont été un creuset important. Mais en même temps, le creuset du mouvement des femmes était tout aussi important. On circulait, je circulais d'un espace à l'autre. J'avais plusieurs espaces à la fois.
Justement, comment s'est passée la rencontre entre la philosophie et le féminisme pour vous? Parce que l'étude des textes philosophiques, quand on étudie la philosophie en France, ça a été mon cas aussi. Même, c'était pas forcément à la même époque, mais le corpus des textes philosophiques n'est pas celui qui nous conduit sur la voie la plus rapide vers le féminisme.
Mais c'était ça mon problème.
Pour le dire de manière élégante.
Mais c'est ça mon problème. C'est bien parce que je l'ai vécu comme un problème. On avait à l'agrégation comme au programme Spinoza. Et Spinoza, quand il dit, alors je l'ai raconté mille et mille fois, et ça a été, je pense, une illumination négative grave dans ma préparation de... J'étais agrégative, c'était le délirant, la bavarde de l'enfant.
Ah bon, alors j'étais... Le délirant, la bavarde, l'enfant, les trois qui sont exclus de la philosophie?
En tout cas, de la raison.
Pour Spinoza.
De la raison. Ça veut dire que j'étais tout d'un coup à l'extérieur du domaine dans lequel je voulais être.
Parce que la bavarde, c'est la femme.
Mais oui. Le délirant, c'est le fou. Il y a l'alcoolique juste avant.
Sachant qu'on peut combiner plusieurs de cet art en une seule existence.
D'une part, et d'autre part, si vous êtes Aristote, ça sera plutôt le domestique, la femme, l'enfant. Si vous êtes Kant, ça sera plutôt le peuple, la race, la femme. Donc on change, les exclus changent suivant les philosophies posées. J'avais fait il y a longtemps un texte là-dessus, sur les amis de nos amis sont-ils nos amis. C'est pas sûr. Et donc je me suis retrouvée, jeune étudiante en philosophie, exclue de la philosophie de par un des philosophes les plus aimés de mon temps. Hein. C'était Pierre Macheret qui nous faisait cours sur Spinoza, tout ça. Et c'est toujours aujourd'hui le cas. Spinoza est toujours effectivement au fait de la philosophie. On comprend pourquoi.
Donc ça veut dire que l'histoire de la philosophie est une histoire masculine?
Non, ça veut dire que moi j'ai pris ça comme... alors que c'était mon rêve et que c'était le lieu que je gagnais, puisque j'étais IPCienne en philosophie, donc j'étais déjà dans la fonction publique de la philosophie quand je prépare les concours du professorat, et donc j'étais confrontée au fait qu'on me disait vous êtes dedans mais vous êtes dehors, ce qui correspond assez bien d'ailleurs à la communauté d'intellectuels dans laquelle j'ai vécu, c'est-à-dire ce que j'appelle finalement après en sous-titre de mon livre Muse de la raison, la démocratie exclusive. C'est-à-dire on est tous dans la démocratie, mais finalement on n'est pas tous égaux de la même façon.
Mais quelle forme ça prend concrètement?
Donc,
parce
c'est
qu'on
ça
pourrait
que ça veut
penser
dire...
qu'une histoire de la philosophie, dans la mesure où c'est une histoire aussi de la raison, est asexuée. Quelle forme?
Non, elle n'est pas du tout asexuée.
Justement,
après,
je voudrais que vous nous disiez pourquoi.
Non, ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'est pour ça.
Ce que dit Hegel s'applique autant à l'homme qu'à la femme.
Non, mais lui, il fait Geschlecht différent. En plus, s'il y en a un qui pense la question.
Voilà. Alors même Spinoza,
c'est
alors,
pas
si
un
vous
bon
voulez.
Exemple, parce que lui, Hegel, justement, il a précisément pensé cette question-là.
Alors
dans
gardons Spinoza, puisque c'est lui qui exclut la
bavarde.
Non,
mais après,
Après, qu'est-ce que ça change?
Non, c'est pour ça que moi je suis partie vers les textes non canoniques de la philosophie, pour y trouver des problématiques de pensée philosophique. C'est en ce sens qu'on a fait ça, Révolte logique. Jacques Rancière faisait la même chose avec la pensée ouvrière. Jean Borel faisait la même chose avec la pensée de l'exil, c'était catalan, etc. Puisqu'on a fait, nous trois, le texte fondateur de la revue. Donc après, il y a eu aussi ceux qui pensaient comment on pensait les enfants, etc. Donc c'était aller chercher d'autres textes. Michel Foucault nous en donnait l'autorisation. Moi, s'il n'y avait pas eu Michel Foucault autorisant la possibilité de chercher des problématiques philosophiques dans des textes qui n'étaient pas.
On va l'écouter, et Michel Foucault.
Si vous voulez bien, juste une seconde pour terminer. Du coup, c'est seulement 20 ans après que je veux dire, je reprends la tradition philosophique, et là, je peux vous assurer que j'y ai trouvé énormément de choses concernant la question des sexes. Mais sur le moment même, ce que j'ai d'abord vécu, c'est l'exclusion de ce corpus. Après, on peut y rentrer à nouveau. Mais ça, ça prend un peu de temps.
Vous seriez presque tenté de repartir à zéro.
Tiens, tiens, c'est drôle ce que vous dites là, parce que c'est très vrai. Si vous voulez,
c'est merveilleux.
Dans la mesure où j'éprouve ce sentiment de plaisir à être débordé, à voir que ça va plus vite et plus loin que moi, oui, oui, un très grand sentiment d'allègement, de liberté, et à la limite, l'envie de prendre une demi-valise, et puis d'aller ailleurs, ou bien pour ne rien faire, ou bien pour faire toute autre chose. Oui, oui, ça, absolument.
Mais c'est ailleurs, vous l'avez déjà fixé ?
Non, pas du tout. Pas du tout, peut-être je le ferai pas, peut-être je resterai piétinant hein, dans mes histoires et à me battre contre ces normalisations qui nous en serrent. Peut-être parce que je suis normalisé, et plus que je ne le crois, plus que je le veux.
Michel Foucault est-il normalisé ? C'était en 1975 au micro de Jacques Chancel, hein, c'était l'émission Radioscopie. Vous dites Foucault, c'est celui qui vous a autorisé à aller puiser dans tous les textes.
Mais oui, parce que quand on est comme ça bloqué, parce que les grands textes de la philosophie vous disent en gros, soit qu'il n'y a rien sur ce sujet-là, soit que vous êtes la bavarde, c'est-à-dire pas l'être de raison que vous aimeriez être... face à Spinoza, ben, quand quelqu'un qui vous montre qu'il peut aller lire n'importe quel texte, et que là, il va trouver quelque chose qu'il pense, mais c'est un soutien fantastique.
Donc même des textes qui ne sont pas de philosophie.
Parce que quand je rencontre, par exemple, puisqu'on parlait de Jacques Rancière, quand je le rencontre, j'ai commencé à lire ces textes extra-philosophiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce petit tour de cette visite à tous les anciens althusseriens. Parce que, oui, je pense que sans les textes de Michel Foucault, j'aurais mis plus de temps. Donc c'est comme un seuil, quoi. C'est comme c'est une autorisation. C'est une autorisation que... Donc c'est pas le contenu même de ce qu'il a fait dans sa pensée, c'est la démarche qu'il a faite. C'est pour ça que j'aime beaucoup son texte, je cite ça souvent, de Nietzsche et la philosophie, où il y a ce mot que j'utilise aussi beaucoup qui est provenance. Je n'ai pas fait de généalogie, j'ai fait de la provenance dans l'histoire de la démocratie. D'où ça vient? Et ça, ce terme de provenance, il est foucaldien. Mmh. Et ça aussi, c'était une autre autorisation, c'est-à-dire aller chercher dans des textes de l'histoire d'où venait la possibilité de penser l'égalité des sexes, d'où venait la résistance à cette pensée, etc., etc., dans l'espace démocratique ou dans le temps démocratique plutôt, c'est-à-dire récemment. C'est-à-dire ces trois derniers siècles, quatre derniers siècles.
Et alors pourquoi dans ce cas avoir tenu à affiner votre pensée féministe, à creuser la question de l'égalité des sexes dans le cadre d'un corpus philosophique ? Vous auriez pu vous en détourner et faire de l'histoire.
Alors d'abord j' ai beaucoup travaillé avec les historiennes. J'ai beaucoup travaillé avec les historiennes, on était transdisciplinaires à la fin des années 70. Moi, j'ai travaillé aussi avec les sociologues à un moment, peu, mais quand même un peu. J'ai beaucoup travaillé avec les historiennes puisque je co-dirigeais le volume 4 de l'histoire des femmes avec Michel Perrault. Donc, c'est une fréquentation d'un groupe de recherche de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90. J'ai contribué à tous les volumes collectifs de ce groupe de travail. Donc, j'ai travaillé aussi avec les historiennes, mais là encore, j'avais l'exemple de Foucault. Foucault, il travaillait bien avec les historiens.
Oui, mais ma question portait sur l'inverse. Pourquoi s'obstiner à le faire en philosophie ?
Parce que je voulais le concept.
C'est quoi ?
Mais c'est ce qui manque dans le regard qu'on a sur la pensée féministe. Quand je titre un livre sur la question du service domestique, non pas du travail domestique, non pas des domestiques, mais du service. C'est mon premier livre. Ou quand je titre 30 ans plus tard un livre sur le consentement, parce que bien avant qu'on en débatte, puisque c'était en 2007, oui, ça m'étonnerait, notamment le contraire m'aurait étonné. Bien quand je distingue, quand il y a le mouvement sur la parité, quand je distingue gouverner, représenter, c'est que ça m'aide à penser. C'est-à-dire que prenons l'exemple du mouvement pour la parité, parce qu'on en reparlera sans doute pas. Là, on dit il faut que les femmes arrivent au pouvoir, et moi je me dis bon, j'ai déjà publié Muse de la raison, c'est au moment du bicentenaire que je l'ai publié. Bon, pour la parité arrive quelques années après, et je me dis ben oui, c'est vrai, j'ai pas pensé l'après droit de vote. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes ne montent pas dans les institutions politiques? Et là, qu'est-ce que je fais? Je me dis il faut que je comprenne. Pour comprendre, qu'est-ce que je fais? Je cherche les mots. Si vous voulez, avant de dire concept, puis dire les mots. Depuis que je suis petite, je cherche les mots qui vont coller avec la chose. Ça, c'est Deleuze qui m'a aidée de ce côté-là, avec son qu'est-ce que la philosophie. Et du coup, quels sont les mots que je vais mettre dans pouvoir politique? Parce que pouvoir me paraît un mot absurde. Les femmes n'ont pas le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, elles en ont du pouvoir, hein, dans certains endroits de la société, de la vie, etc. Et du coup, je trouve que il est plus facile, finalement, pour une femme d'être nommée au gouvernement que d'être élue de la nation. Pourquoi? Ben parce que Léon Blum va nommer 3 femmes secrétaires d'État en 36, alors qu'elles n'ont pas encore le droit de vote. Donc si vous êtes nommée pour votre compétence, vous êtes au gouvernement. De la même façon, quand Jospin est venu me chercher pour être déléguée interministérielle, j'étais...
Au droit des femmes.
Merci. Donc à ce moment-là, je suis nommée pour mes compétences. Et après, quand Robert Rue vient me chercher pour être la société civile féministe de sa liste, Bouge l'Europe, qui a bien agacé le Parti communiste, mais qui était quand même moitié-moitié, à ce moment-là, je vais devenir élu de la nation, c'est-à-dire être dans la représentation. Et j'avais déjà trouvé ces 2 catégories, bien avant que toute cette chose inattendue m'arrive. C'est que donc j'avais distingué gouverner, représenter, parce que c'est ce qui me permettait de penser le pouvoir. Mm-hmm. Donc pourquoi je veux la philosophie? Pour ça.
Et après, le concept, c'est ce qui aide à penser?
Mais oui, sur cette question-là.
Mais ce qui distingue
après,
le mot gouvernement,
le mot gouvernement, je vais pouvoir le dédoubler. Il y a le gouvernement domestique et le gouvernement politique.
Mais alors, ce qui distingue un mot d'un concept, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui distingue un mot d'un concept?
Bon, d'abord, on commence par le mot. Parce que ça, c'est quand on est petit, on commence par le mot. Parce que les mots, c'est ce qui permet d'identifier ce que... Moi, je n'ai vécu qu'avec les mots depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire ce qui m'a permis de mettre... de comprendre mes sensations, mes sentiments, mes sensibilités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre avec le mot sens? C'est-à-dire le mot peut donner chair à ce que je ressens.
Le mot, c'est de la chair. Alors, qu'est-ce que le concept apporte au mot? Comment il se distingue?
Ah, c'est le pas de plus. C'est ce qui va me permettre d'être en interlocution avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce qui va, par exemple, si je reprends la distinction que je faisais à l'instant, du point de vue politique, c'est ce qui va nous permettre de manipuler de la matière et de distinguer la matière. Et c'est ce qui me permet de dialoguer. C'est les mots qui passent au concept. C'est ce que dit Deleuze dans le début de Qu'est-ce que la philosophie? Et c'est un texte qui m'a, il est de 91, je crois. Mais je me suis dit, donc, Foucault est en amont, et si vous voulez, Deleuze est en aval. C'est-à-dire que quand il sort ce livre, il me dit, oui, mais c'est exactement ça que je fais. C'est-à-dire que j'ai la chose, et, par exemple, quand j'ai le mot consentement, pourquoi je prends le mot service? Ça, c'est à la fin des années 70. C'est parce que c'est ni la question du travail, gratuit ou pas gratuit, domestique, ni la question des travailleuses, c'est-à-dire de l'entité de la domesticité, mais c'est qu'est-ce qu'on fait en démocratie quand il y a la construction toujours du service, c'est-à-dire d'une femme qui va en servir d'autres femmes pour l'émancipation. Question posée en 1900, il n'y a pas besoin d'attendre 1970. Donc là, c'est le mot service qui va me permettre d'ouvrir la porte du problème.
Alors, qu'est-ce qu'un concept, ce qui amène la question que Gilles Deleuze lui-même va vous poser.
Je voudrais moi aussi poser des questions. Qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Et est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela?
Geneviève Fraisse, vous avez une réponse à cette question? Qu'est-ce que je fais quand j'espère faire de la philosophie?
Mais qu'est-ce qu'on a à se dire? Il vient de terminer sur à se dire, et moi je venais de terminer sur interlocution. Je peux parler avec vous si j'arrive à ce que les mots deviennent des concepts, et à ce que je puisse dire, comment je manipule cet objet qui est le mot service, ou le mot concept, ou le mot, quand je dis démocratie exclusive, qui n'est pas excluante, comme dans l'Antiquité. Donc à ce moment-là, je désigne un problème. Voilà, on peut passer au mot problème, si vous voulez.
Mais pourquoi? Non, 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 n'esquivons pas celui de philosophie. Parce que pourquoi est-il si difficile? Chaque vendredi, je pose la question à mon invité et chaque invité répond différemment ou ne répond pas. Pourquoi est-il si difficile de définir la philosophie? De définir même ce que l'on espère faire quand on fait de la philosophie, comme le dit Deleuze.
Mais moi, je trouve pas ça difficile. Moi, je n'ai pas l'impression d'être en difficulté avec vous là.
Alors dites-moi. Comment vous définissez la philosophie? Qu'est-ce que vous espérez faire?
C'est ce que je vous ai dit déjà avec les mots. C'est ce qui me calme. C'est ce qui me calme. Les mots me calment. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur le sentiment, la sensation, la sensibilité. Les mots apportent la paix. Ça, c'est quand j'étais toute petite. Et ensuite, je transforme les mots en concepts parce que je veux poser des problèmes, parce que je trouve que la question de l'émancipation des femmes, parce que ça, quand je suis petite, comment ça se fait que tous ces intellectuels sont des hommes, bon, excepté ma mère, qui était elle-même professeure d'université et autrice de livres. Mais sinon, les autres femmes... Donc là, il y a des choses que je comprends pas. Donc seules les problèmes... Alors, comprendre, c'est pas seulement trouver des solutions. Les solutions, c'est pas important, c'est poser des problèmes. Donc là, je suis en plein cours de philosophie, hein, parce que le peu que j'ai enseigné la philosophie, j'ai fait ça. À tel point d'ailleurs que l'année où j'ai enseigné la philosophie, en 74-75, figurez-vous que j'ai encore 3 anciens élèves qui ont repris les relations avec moi. Donc, presque 50 ans plus tard. Donc c'est que quelque chose de l'ordre du problème avait été entendu. C'est-à-dire j'adorais leur apprendre à faire des dissertations de philosophie parce qu'on n'allait pas répondre.
Avant de pénétrer dans votre atelier de concept, Geneviève Fraisse, un tour du côté de ce qu'on entend quand on s'approche de votre cœur ou de votre oreille, notamment l'adagio de Samuel Barber, qui a été surutilisé pour des musiques de films, notamment, entre oui. autres, des séries également. Qu'est-ce qui vous touche autant?
Non, c'est la concentration que ça permet. C'est pas le film. C'est parce que les cordes, c'est... Je crois qu'on a tellement appris aux filles, et c'est pas mon cas, hein. C'était le cas d'une de mes sœurs, on a tellement appris aux filles à faire du piano que j'ai une réticence, j'en ai pas fait, hein. Moi c'était la chorale, mais c'était le chant. Mais on a tellement appris aux filles à faire du piano que les cordes sont pour moi un lieu du réflexif. Donc, où je me sens bien.
Et vous retrouvez le problème que vous avez en philosophie ?
On a le temps. Il faut rêver pour. Il faut aussi rêver pour formuler les problèmes, pour que les mots s'assemblent.
Et la musique sert à ça ?
Pas seulement. Ah non, pas seulement. Non, là, vous ne me ferez pas dire ça.
Et vous écoutez de la musique en travaillant ?
Non. Ou alors à certains moments pour faire des ruptures de concentration, si vous appelez ça aussi travailler, ce qu'on peut appeler ça aussi travailler.
Nous parlons de musique, on aurait pu parler aussi de théâtre. Geneviève Fraisse, qui compte beaucoup pour vous. Comment est-ce que la musique, le théâtre, ces activités qui ne sont pas à proprement parler philosophiques, nourrissent-elles votre travail philosophique ?
Alors je les mets pas du tout sur le même plan parce que il se trouve que le théâtre, je l'ai rencontré dans ma vie personnelle, qu'on dit privée, continuellement. C'est-à-dire c'est la vraie vie.
Ah oui.
Oui.
Le théâtre, c'est la vraie vie. Oui. Mais que faisons-nous ici alors?
Non, c'est le théâtre, c'est depuis l'adolescence aussi où c'était les Tréteaux de France, c'était Sartou qui m'avait embarqué et puis j'ai jamais arrêté. J'ai toujours c'est toujours un milieu. C'est le milieu privé où j'ai trouvé la vraie vie. Oui, la vraie vie, c'est pas seulement la vie des relations intimes. C'est aussi qu'il y ait la scène et le hors scène. Ça m'a paru génial. Pour comprendre quelque chose, quoi. C'est comme on passe de l'un à l'autre. J'adore ça. C'est pour ça que j'appelle ça la vraie vie. C'est parce qu'il y a la scène et le hors-scène. Ou le hors-champ, comme dirait Deleuze. Mais,
et vous avez joué?
La seule chose que j'ai faite, c'est de me retrouver sur des échasses de 2 mètres dans le film Molière d'Ariane Mouchkine, puisque je vivais avec un des comédiens du Théâtre du Soleil. Donc nous sommes sur des échasses de 2 mètres le jour de la mort de la mère de Molière dans le film. Ça dure quelques secondes, mais c'est la seule chose que j'ai fait. Mais je peux en être fière finalement. Mais non, j'ai pas joué. Ce qui m'intéressait, c'était pas du tout de jouer. Non, pas du tout, du tout, du tout. Ce qui m'intéressait, c'était de regarder les processus de fabrication. C'est la fabrication qui m'intéressait. C'est le passage, justement, du hors-scène à la scène, puis la sortie de scène, etc. Non, c'est la fabrication qui m'intéressait. Comment... Et au point, d'ailleurs, que du coup, quand j'étais députée, j'ai fait un rapport sur le spectacle vivant. Un rapport d'initiative. J'ai choisi de faire un rapport d'initiative sur le spectacle vivant au Parlement européen, dont on me parle encore, presque 20 ans plus tard. Ça fera 20 ans bientôt, et on m'en parle encore dans le milieu du spectacle. Donc, c'est que, sans doute, ils ont entendu que je m'y connaissais un petit peu, en tout cas, physiquement, à ce que c'était que le spectacle vivant.
La fabrication qui vous concerne le plus, c'est sans doute celle de vos ouvrages. Vous avez beaucoup écrit, Geneviève Fraisse, vous avez cherché toute votre vie, vous avez écrit toute votre vie. J'ai quelques-uns de vos ouvrages sous les yeux. Féminisme et philosophie est paru en poche chez Gallimard, en folio. La suite de l'histoire, actrice et créatrice, disponible au Seuil. Du consentement qu'on trouve également au Seuil. Et puis alors on trouve livre Le mélange des sexes, La controverse des sexes, Les femmes et leur histoire, La raison des femmes, Histoire des femmes en Occident. Cette fabrication-là de votre œuvre a-t-elle été source de plaisir, source de nécessité, source de douleur? Ou les trois? Vous pouvez répondre les trois.
Oui, les trois, bien sûr. C'est les trois, c'est à la fois nécessaire. Écrire est nécessaire. À partir du moment où on a besoin des mots pour tout le temps, et depuis qu'on est tout petit, écrire, ça va de soi. Tout ça, c'est enchaîné sans que je prenne aucune décision. C'est tout simple. Donc c'est une nécessité, c'est un grand plaisir. Ça apporte la paix, comme je disais tout à l'heure, y compris l'écriture, pas seulement de mettre des mots sur les choses. Ce sont des moments de grande paix. Et puis, donc, il y a de la jouissance, beaucoup, qui est, alors c'est dans la suite de l'histoire, justement, puisque c'est sur la construction de la femme artiste depuis 2 siècles, que je dis au départ, oui, bien sûr, on a toujours parlé de la souffrance des femmes quand elles sont créatrices, mais moi, je vais pas vous en parler comme ça tout de suite, même si je commence avec Louise Bourgeois, qui dit, mais moi, pas de soucis, et puis, que ça se joue en face à face avec, c'était dans l'exposition des papesses avec Camille Claudel, dont on sait, Dieu sait si elle a souffert, hein. et que c'est pas la bonne question, je vais l'aborder à la toute fin, cette bonne question, qui est celle de la souffrance, et qui peut venir du trauma, que beaucoup de femmes artistes, donc je prendrai l'exemple de Nicky de Saint-Phal, puisqu'elle a fait ce livre Mon secret, qui est sur le viol de l'enfance. Et là, on en a une kyrielle, hein, de femmes créatrices qui ont des traumas d'enfance, évidemment sexuels. Mais c'est pas la bonne question, parce que inversement, je me suis beaucoup intéressée aussi au fait que pour Simone de Beauvoir, j'ai même fait un texte là-dessus qui s'appelle La jouissance précède la souffrance. C'est une femme étonnante. Si je la compare, par exemple, à quelqu'un que je fréquente aussi beaucoup, qui est Germaine de Staël, ce qui est étonnant, c'est que chez elle n'écrit pas pour résoudre quelque chose de l'ordre de la souffrance, qu'on peut voir chez énormément de femmes et sur plusieurs siècles. Elle est d'abord dans la jouissance. Elle est, elle aussi, sur le tout savoir. Elle raconte comment elle arrive à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi, parce que je suis aussi allée à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Et où tout nous est donné, quoi. Et pourquoi j'insiste sur cette question de jouissance? C'est parce qu'à la fin donc de la Révolution française, ça fait partie d'une des scènes primitives de Muse de la raison, qui est un petit peu le livre Princeps chez moi, que donc je publie au moment du bicentenaire, qui va donner beaucoup de petits. Il y a des lignes qui descendent, l'émancipation, le pour toutes et le pour chacune, pour toutes les citoyennes, les travailleuses, etc. Et pour chacune, celles qui veulent créer, qu'elles soient intellectuelles ou artistes. Et ce qui est dit dans une des querelles de la fin de la Révolution française, c'est que non, elles ne seront que des muses et pas des génies, comme un poète le dit à une poétesse, et la poétesse répond, c'est Constance de Salme, désolée, moi je veux jouir comme vous.
Et c'est ça.
Donc c'est la demande de jouer. Mais on joue aussi.
Que vous cherchez quand vous écrivez? Parce que je vous ai interrogé sur votre écriture et vous m'avez répondu par la souffrance et la jouissance des femmes jusqu'à cette citation ultime.
Qu'est-ce que je vous ai répondu, je vous ai dit je suis dans la nécessité, je suis dans la jouissance et je suis dans la souffrance. C'est compliqué parce que on met le doigt, quand on travaille comme moi, sur l'inégalité des sexes, ou plutôt sur l'émancipation. On est précisément dans cette bascule permanente entre ce qui fait souffrance et ce qui peut permettre le plaisir, c'est-à-dire l'émancipation, le droit de. Quand je parle de jouissance, on jouit de ses droits aussi. Mmh. On peut jouir d'écrire, on peut jouir sexuellement et on peut jouir de ses droits. Donc ce mot, il y a un mot qui a quand même beaucoup disparu par les temps qui courent, qui est le mot désir. Vous l'avez pas encore employé d'ailleurs. Je sais pas si vous l'employez tous les vendredis, mais
beaucoup plus que ça.
Pardon, et plus que ça. Mais pardon, c'est moi cette fois, c'est moi qui posais une question. Mais je trouve que ce mot est bizarrement absent depuis quelque temps. Le mot qui a été pourtant si présent dans ma jeunesse, ce mot désir. Voilà, je désirais faire tout ça. Donc tout se mélange. Il y a bien sûr des choses très très difficiles. Ces écritures dont vous parlez, ces livres, et c'est vrai qu'ils finissent par être nombreux, ils ne sont pas reçus les bras ouverts. Mmh. Parce que je parle de choses dont on n'a peut-être pas envie d'entendre parler.
Mais c'était le sens de la question que je vous ai posée au début de cette émission. Je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur la question du sexe en philosophie. Pas simplement l'absence même de ce qu'on appelle le sexe ou la sexualité en philosophie, parce que c'est vrai qu'elle est quand même...
Je préférerais dire sexuation.
Mais alors, justement, c'est pour ça que je commence avec la sexualité, qui est de fait absente en grande partie du corpus même de l'histoire de la philosophie. Quant à la sexuation, dans quelle mesure...
Qui est le titre d'un de mes livres.
Voilà. Dans quelle mesure est-ce... pour vous, le lieu d'un combat, disons, militant, qui pourrait nous faire atteindre une sorte d'égalité que vous appelez de vos voeux, ou bien dans quelle mesure est-ce que finalement c'est une question qui est quasiment théorique? En clair,
je peux vous répondre.
Est-ce qu'il y a un texte de femme et un texte d'homme? Est-ce qu'il y a une histoire de la philosophie qui serait féminine, une qui serait masculine? Est-ce que vous écrivez comme vous écrivez parce que vous êtes une femme?
Non, bah alors là, Virginia Woolf qui répondra à votre question, et je la fais.
Ah, mais elle ne vient pas aux professions philosophes, malheureusement.
Alors j'ai deux choses à vous dire très importantes. Dans la suite de l'histoire, je la fais répondre. Comment on passe de j'y suis revenue pendant toutes ces 20 dernières années, c'est-à-dire comment on passe de l'écriture dans la rage, qui est celle de Charlotte Brontë, par exemple, qui doit devenir impersonnelle, comme elle dit, et de l'impersonnel, on passe à l'universel. Dans 100 ans, elle sera un poète, qui est la phrase que je répète tout le temps, qui est la sienne, hein, qu'elle répète dans une chambre à soi. Donc là, à la réponse, c'est on franchit toutes ces étapes, et c'est parfait. Et d'ailleurs, alors ça serait tout un champ ouvert. Moi, j'ai fait juste un petit texte un jour qui s'appelle Sexe, Eros et Libido, ou voir comment Freud n'y arrive pas. Alors, finalement, la sublimation, mais Deleuze n'y arrive pas non plus, hein. Son texte sur le couplage de la pensée que je cite là, c'est, il se casse un peu la figure avec le couple Fitzgerald, je trouve. Mmh. C'est ce que je mets dans mon livre récent. C'est-à-dire donc, comment on passe du sexe, de la sexualité à la sublimation? Est-ce que ça se fait à travers la question de la différence des sexes ou pas? Mais tout le monde hésite, hein. Personne n'est propre sur cette affaire. Personne n'y arrive vraiment. Et je trouve que c'est finalement Virginia Woolf la plus claire, puisqu'elle passe donc du je à l'impersonnel, puis de l'impersonnel finalement à l'universel.
Mais Virginia Woolf a une position très claire. Elle dit que...
Je voudrais dire la deuxième chose.
On s'en fiche de savoir si c'est un homme ou une femme qui a écrit un texte.
Non, mais elle le dit quand même. Non, là je reprends. Dans la suite de l'histoire, je reprends les étapes qu'elle propose successives. Non, elle réfléchit à cette question.
Bien sûr.
Elle passe pas d'un point à l'autre.
Ah non.
Et puis je voudrais faire une deuxième réponse.
Mais au contraire, vous apportez la conclusion de sa réflexion.
Ah bon. Je voudrais, oui, on s'en fiche, mais ça prend du temps. Mais c'est le la fameuse question aussi qui a été posée avec le débat autour de la libido. Je veux dire, quand Freud, à un moment, il choisit le terme libido, c'est pour dire qu'il veut plus du terme éros. Ça aussi, j'ai été le chercher. Donc voilà pourquoi il passe du terme éros au terme libido. C'est vachement intéressant. Bon. Je vais répondre maintenant aux deuxième partie de votre question, parce que puisque je n'y ai pas répondu tout à l'heure, je vais y répondre. Sur le rapport entre théorie et militantisme, c'est-à-dire sur théorie et pratique. Alors c'est très très clair dans ma génération, c'est-à-dire et très très clair dans ma nécessité, c'est-à-dire que puisque c'est, d'une part, il y a la naissance du mouvement de libération des femmes, et qui m'attire énormément, et d'autre part, il y a le fait que je veux penser cette question-là. Je vais toujours les séparer et toujours les joindre. Alors pourquoi il faut les séparer? Parce que l'univers entier n'a qu'une seule envie, c'est de vous dire que vous militez. J'ai ça dans mes rapports du CNRS, hein, année après année. Elle publie beaucoup, elle voyage beaucoup, mais enfin, ça serait pas militant, ce qu'elle raconte. Ça, je les ai gardés, je les ai conservés, c'est vraiment... Et puis du coup, on la promeut pas, hein, parce que de toute façon, c'est pas sérieux. Donc, je me suis payé cette méchanceté, ce mépris, cette condescendance, toute ma vie. Et donc... La question est précisément de faire de l'épistémologie. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai répondu le plus possible de manière épistémologique depuis tout à l'heure, parce que c'est très politique, l'épistémologie que je recherche, et notamment, prenez les débats d'aujourd'hui, depuis 2 ans, avec MeToo jusqu'au consentement de ce mois de janvier, ce qu'on fait, c'est de la morale. La morale est ce que Gaston Bachelard appellerait un obstacle épistémologique, pour ma question. Faut surtout pas poser la question morale. Et c'est pour ça que je vous ai répondu par le rapport à l'égalité. Si on faisait un peu... Pourquoi on a supprimé le débat sur l'égalité autour du consentement? Ça me pose problème. Donc si vous voulez, la séparation entre théorie et pratique est d'autant plus importante qu'on n'a qu'une seule envie, c'est que vous fassiez du militantisme et surtout pas de la pensée. Donc je suis obligée de mettre les choses à l'envers. Ça m'empêche pas, et ça a été vu dans ma propre vie, de pouvoir être engagée et militer. Mais il faut absolument les séparer pour mieux les relier.
La particularité chez lui, c'est d'être écrivain et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de cette séduction et cette dépossession des jeunes filles et des jeunes garçons d'ailleurs. C'est ça, voilà, qu'il caractérise, qui fait sa singularité, on va dire. C'est en plus d'être écrivain et d'utiliser la littérature pour pouvoir continuer à assouvir ses pulsions qui sont malheureusement pathologiques.
Vanessa Springora au micro de Guillaume Erner, c'était le 3 janvier 2020. Elle est l'auteur du livre Le Consentement, paru aux éditions Grasset le 2 janvier. Il est déjà en rupture de stock d'ailleurs, enfin a été réimprimé. Déjà 65 000 exemplaires vendus, dans lequel, dans ce livre, elle évoque sa relation avec Gabriel Matzneff, 30 ans après les faits. Le Consentement, c'est le titre du livre. Vous aviez aussi titré, comme vous dites, un livre avec ce mot, Geneviève Fraisse. Et là, on touche exactement à la complexité du problème que nous étions en train d'évoquer. Comment peut-on continuer à séparer philosophie et militantisme quand on est face à ça?
Ben moi, alors là, j'irais même plus loin. Comment on peut séparer? Parce que c'est trop drôle ce qui arrive cet hiver.
Enfin, drôle.
Permettez-moi, oui, on était en train de discuter avant Noël. Il fallait absolument séparer l'œuvre de l'homme avec Polanski. Et là, on ne peut pas séparer l'œuvre de l'homme. C'est génial depuis 2 ans ce qui se passe, permettez-moi de le dire pour quelqu'un qui se balade dans cette question depuis quelques décennies, c'est génial parce que comment on fait? On pouvait ne pas séparer chez Polanski, mais pas d'un point de vue moral, la question de l'œuvre et de l'homme. Donc là je reviens un tout petit peu quelques semaines en amont, c'est que dans son analyse de l'affaire Dreyfus, il va mettre au centre le colonel Picard, ce que les spécialistes de l'affaire Dreyfus trouvent un peu exagéré. Et pourquoi il met au centre le colonel Picard? Parce que ça serait de l'intérieur de l'institution militaire qu'on se serait quand même soucié de l'injustice qui était faite au capitaine Dreyfus. Est-ce que alors ça serait... Ça, c'est un plaidoyer pro domo, ça.
C'est-à-dire que... votre lecture?
C'est une lecture.
Du J'accuse de Polanski.
Non, c'est pas une lecture. Ça veut dire que comment on sépare l'homme de l'œuvre? Parce que dans l'œuvre, on peut déplacer aussi le problème. Et plutôt que d'aller chercher les intellectuels, puisque c'est un analogisme de cette époque-là, qui ont quand même cassé... l'histoire de cette injustice féroce, on va chercher quelqu'un de l'intérieur de l'institution, comme si c'était de l'intérieur, permettez-moi de faire un transfert, du patriarcat que les hommes allaient essayer de s'en sortir dans ce rapport entre l'œuvre et l'homme. Et là, j'ai pas besoin de faire de la morale. Vous voyez, je vous donne un exemple où je ne fais pas de morale. Je vais juste chercher, et de la même façon, sur l'affaire du consentement et de Gabriel Matzneff et de Vanessa Springora, ce qui est important, je trouve, c'est de ramener ce que moi je peux faire, la question de l'égalité, justement, qui est un peu mise de côté au profit de la pédocriminalité seulement, alors que l'égalité... Et alors, Gabriel Russier, elle se suicide. parce qu'on la condamne, puisqu'elle a une relation avec un jeune homme. Donc, à la même époque, c'est au début des années 70, ou 69, ou 70. Donc, une femme, quand elle a une relation... Là, maintenant, si vous vouliez parler de différence des sexes, si on doit parler des sexes, il faut mettre sur le même plan toutes les affaires. Mmh. Alors, d'un côté, c'est plus facile que de l'autre. On pouvait soutenir un homme qui écrit sur des relations asymétriques, mais pas une femme. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai envie d'ouvrir cette boîte. C'est là où on tombe sur le problème que je dois fabriquer.
Donc, c'est encore à travers le prisme de l'égalité que vous souhaiteriez penser.
C'est un prisme. Quand j'analyse, alors vous savez, sur le consentement, ce que je dis dans Féminisme et Philosophie, ouais. Dans un texte que j'ai dans les textes d'après MeToo, qui sont dans Féminisme et Philosophie, qui viennent paraître, c'est que je veux plus employer le mot consentement parce qu'il a donné tout ce qu'il pouvait. Donner. Il faut employer le mot accord. Y a-t-il parce que dans le mot accord, il n'y aura pas le double sens qu'il y a dans consentement, qui est soit consentement mutuel, soit j'accepte, soit je n'en peux mais. Hein, c'est ça le double sens de consentement. De la même façon que le consentement, il peut être asymétrique.
Alors que l'accord implique
l'accord
est participation active des deux personnes.
L'accord risque d'être plus clair. C'est à nous de voir ce que ça peut donner maintenant. Mais il me semble, c'est un peu ma proposition, qu'il faut arrêter de se focaliser sur ce mot consentement que, par ailleurs, j'ai quand même traversé longuement en travaillant dessus, bien sûr.
Comme si le mot était fatigué, qu'il fallait désormais en proposer un nouveau.
Ben c'est ça aussi la philosophie, c'est comme le modèle nature-culture qui est totalement inutilisable aujourd'hui et que pourtant les études de genre continuent à utiliser, malheureusement à mes yeux, il est épuisé ce modèle. Donc je pense que le mot consentement est en train de s'épuiser et tant mieux.
Et donc on va aller vers l'accord.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre. On va se quitter, si vous en êtes d'accord, Geneviève Fraisse, avec une chanteuse que vous avez évoquée au cours de l'émission. Finalement, on est allé la chercher et la voici, Janis Joplin.
Merci.
Mercedes-Benz. Merci, Geneviève Fraisse.
Oh, merci.
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi, et vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Et oui, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un terme qui revient souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans le développement personnel, c'est le soin. Alors le soin, il faut le rappeler, est d'abord un grand concept en philosophie, on parle aussi du care, en reprenant la théorie de la psychologue et philosophe américaine Carol Gilligan. Pour le dire vite, le soin est une manière de repenser les rapports à autrui en termes d'attention et de sollicitude, en mettant ainsi l'accent sur l'idée de relation, relation singulière et incarnée à l'autre, plutôt que sur de grands concepts abstraits comme le bien, la justice ou la vie. Mais bizarrement, quand on parle de soin en développement personnel, la relation à l'autre disparaît complètement et on parle d'abord de prendre soin de soi. Or, que reste-t-il du soin quand il ne concerne que nous ?
Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer 7 petits rituels, parfois un peu étonnants, à adopter pour prendre soin de vous au quotidien. Alors prendre soin de soi, j'ai choisi d'en parler parce que à mon avis c'est pas du tout un acte égoïste. En fait je vous explique, il y a quelques temps, pendant les fêtes, au fil d'une conversation, donc voilà, je commence un petit peu à assumer et parler autour de moi du fait que je parle de développement personnel, parce que ça me passionne, je me suis aperçue que pour certains, c'est un repli sur soi, une fermeture un petit peu au reste du monde et aux autres. Et vraiment, j'ai envie de dire que c'est pas ça. Mais je crois qu'on a besoin d'un passage, d'un recentrage sur soi.
Je me demande, Géraldine, où vous trouvez toutes ces perles sur YouTube que vous diffusez chaque jour?
Je passe un temps infini sur Google et j'aime beaucoup ça. Et alors, quand j'ai dit justement que le soin revenait tout le temps dans le développement personnel, j'aurais même dû dire qu'ils étaient employés comme des synonymes, car justement, puisque je passe mon temps sur Internet, si vous faites une recherche en tapant développement personnel, vous ne tomberez que sur des articles, des livres, des vidéos qui vous diront comment prendre soin de vous, de votre temps, de votre histoire. Et j'ai même lu prendre soin de son enfant intérieur. Alors, se développer, c'est donc prendre soin de soi, ce qui est doublement problématique, il me semble. D'abord, pourquoi se développer passerait-il en effet forcément par le soin? Le soin est-il vraiment équivalent au développement, à l'amélioration, à l'accroissement? Mais aussi, pourquoi se développer serait-il forcément un développement de soi et pas des autres? Où est donc passé l'autre dans cette promotion du soin? Alors oui, je vois bien que dans développement personnel, il y a personnel, mais personnel ne veut-il dire qu'à propos de soi et de personne d'autre? Les objections qu'a entendues cette coach qu'on a entendue et dont elle nous fait part me semblent légitimes. Le développement personnel implique une forme d'égoïsme, mais surtout, et c'est ce qui me frappe, il détourne l'idée même du soin de l'autre vers soi, soi-même et personne d'autre. Or, peut-on encore parler de soin quand il ne s'agit que de nous?
Quand tout le monde te dit « tu as l'air fatigué », il faut réagir. Découvrez le nouveau soin rouge Revitalift de Paris. Sa formule anti-fatigue au ginseng rouge réveille l'éclat. Et le pro-rétinol aide à raffermir et lisser les rides. Nouveau soin rouge Revitalift de Paris.
Prendre soin de soi est une idée désormais entendue, admise. Les soins de beauté ne concernent d'ailleurs que cette idée. Prendre soin de soi pour briller, être à son meilleur, se sentir bien et le montrer, l'idée est un peu superficielle mais pas inintéressante quand on sait que l'on peut avoir en effet tendance à se négliger, à se mettre à l'épreuve, soit par excès d'altruisme, soit par excès d'ambition. Mais cette idée a beau être admise, promue, vendeuse, belle ou autre, je dois dire qu'elle me laisse malgré tout perplexe. Déjà parce que, comme je l'ai dit, elle a une dimension égocentrée qui me semble contraire au concept de soin, mais aussi parce qu'elle me semble ne mettre l'accent que sur la dimension cosmétique du soin. Prendre soin de soi, c'est être soigné, entendez être présentable, ce qui paraît bien loin de l'idée d'un réel développement, d'un réel déploiement de soi. Mais surtout, c'est le dernier problème pour moi, parce que prendre soin de soi me fait tout de suite penser à ça. J'imagine que mon moi, sorte de masse informe qui aurait mes yeux, serait sur un brancard, admis à l'hôpital, soumis à des soins, ausculté, ou qu'il serait alors dans un lit avec ma maman qui me lit une histoire. Or, qui veut ça? Qui veut s'auto-ausculter? Qui veut s'administrer des soins? Qui veut s'auto-materner? Il faut se rendre à l'évidence, quand on prend soin de soi, on se fait son propre patient ou son propre enfant. Le soin est un concept à la mode. C'est vrai qu'on en manque cruellement, on manque cruellement d'une théorie intersubjective de la justice, et je suis sérieuse sur ce point. Mais le soin de soi ne manque pas, au contraire. Car il concentre, selon moi, sous un aspect éthique, ce qui ne l'est pas du tout. Il force l'individualisme, la superficialité, et surtout, il implique une mise en scène de soi sur le mode infantile ou maladif. C'est, je crois, le pire à mes yeux. Car prendre soin de soi, c'est au fond mimer une position de fragilité et de vulnérabilité et en priver ceux qui en ont besoin. C'est ainsi réduire le soin à une simple posture et à ses trois toutes premières lettres.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo et surtout, prenez soin de vous. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Pascal Baudin. On se retrouve lundi pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie autour d'Épicure, une petite épicure de rappel où on se demandera si l'abus de plaisir est mauvais pour le bonheur, s'il est bien raisonnable d'avoir peur de la mort. On parlera de la bombe atomiste. Et on se demandera si l'amitié peut venir au secours de l'amour, tout cela évidemment à la suite d'Épicure et de ses jeux de mots restés célèbres. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur Twitter, Instagram, Facebook, où vous risquez de croiser Géraldine Mosna-Savoie qui sera peut-être encore sur YouTube. Et vous pourrez surtout lui laisser un commentaire et une remarque et l'équipe des chemins vous prendra soin de vous répondre. À lundi donc, nous on sera là. D'ici là, passez un bon week-end sur France Culture.